radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Boone.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2124. Beaucoup, beaucoup d'action dans le monde du sport et ce sera une émission fort chargée ce soir dans l'avant-match. Une émission au cours de laquelle vous allez entendre l'arbitre en chef de la région de Québec au niveau du hockey mineur nous jaser et vous allez voir que c'est fort intéressant ce qu'il a à nous raconter. Et j'espère qu'on va pouvoir convaincre des auditeurs ou peut-être même des enfants de certains auditeurs de s'impliquer dans l'hockey mineur et d'arbitrer parce qu'actuellement, il y a sincèrement une pénurie. Ce soir, tout de suite après l'émission, je vais me diriger vers le Stade Canac pour assister à la projection du documentaire sur la vie de Bob Bissonnette. Bob Bissonnette nous a quittés malheureusement le 4 septembre 2016, trop tôt à l'âge de 35 ans, dans un triste accident d'hélicoptère au retour du Nouveau-Brunswick. Et ce soir, on lui rend hommage au stade municipal et j'aimerais qu'on entende ma toune préférée, c'est « Jouer au hockey dans la rue ». « Jouer au hockey dans la rue », pour moi, c'est un souvenir. Et Bob avait ce don de, je dirais, fabriquer des tounes avec des paroles qui ont marqué notre enfance et pour lesquelles on a d'excellents souvenirs. Il est entre autres question de Chris Chelios dans une de ses tunes, des Harfans de Beauport et tout. Et jouer hockey dans la rue, je trouve que ça résume bien ce qu'on a vécu comme petit cul. On va écouter un extrait ou tout au complet. Là, je laisse au metteur en onde le choix de la durée de la tune. Mais écoutons Bob Bissonnette, ma tune préférée à moi, jouer hockey dans la rue.
On arrive à la maison, tu places tes livres dans le coin, puis c'est pas trop long. T'attaches tes souliers avec des vieux cordons, tu sors les nets d'Henri, puis tu check tes bâtons. À ce soir, on va jouer avec deux paires de bodelines, mais ça empêche pas ton chum de se prendre pour Pat la Fontaine. Les sortes de Buffalo sont excités, ils jouent contre les North Stars à l'étranger. On s'en va jouer.
Donc, c'est ce soir au Stade Canac, 20h, la présentation du documentaire. Mais c'est pas mal complet, sérieusement. On attend 7000 spectateurs. Il y a une autre option pour le public qui est à l'écoute actuellement. C'est à Place Diouville, dans le cadre du Festival du cinéma de la Ville de Québec. On présente également le documentaire sur la vie de Bob Bissonnette. Ça a été, je suppose, j'ai pas vu encore, mais très bien fait par Bruno Lachance et sa blonde Marie-Claude au cours des dernières années. Bruno Lachance, un ancien collègue à moi, Bruno connaissait très bien Bob Bissonnette. J'ai une bonne histoire à vous raconter concernant Jack Eichel. Jack Eichel, ben, c'est le meilleur joueur des Sabres de Buffalo. Et Jack Eichel a raconté dans les derniers jours s'être présenté au match final de la Coupe Stanley. Match numéro 7 entre les Blues et les Bruins. Parce que lui, il est tanné de perdre à Buffalo. Fait qu'il s'est dit, je vais aller voir un match de la finale de la Coupe. Puis il est sorti de là, puis il s'est dit, tabarouette, je veux la gagner encore plus, la Coupe Stanley. C'est intéressant, d'une part, sa démarche et la façon dont il explique ça. Il dit à Buffalo, là, notre tradition de perdant, c'est assez, il faut se mettre à gagner. Ralph Kruger, qui est l'entraîneur-chef, l'ancien entraîneur-chef des Oilers d'Edmonton, a été embauché dans les derniers mois. Normalement, un nouvel entraîneur-chef, ça ajoute un vent d'optimisme et il y a des joueurs qui se mettent à travailler un peu plus fort en espérant que ça puisse aider les Sabres de Buffalo pour la prochaine saison. Et oui, hier, on a appris que Provorov et Morrissey, les défenseurs des Flyers et des Jets, avaient signé des contrats comme joueurs autonomes avec restrictions, mais il en reste beaucoup, hein? Il en reste beaucoup des joueurs à signer. Ben, j'ai hâte de voir les attaquants. Braden Point, Kyle Connor, Patrick Laine, Mitch Marner sont toujours sans contrat actuellement dans la Ligue nationale. L'élite mondiale du vélo a pris d'assaut la ville de Québec depuis 11 heures ce matin. Ça s'est terminé dans les dernières heures. Et notre collègue Jonathan Bernard était sur place. Il nous raconte sa journée.
Encore une fois cette année, le soleil et la foule étaient au rendez-vous pour la présentation de ce 10e Grand Prix cycliste dans les rues du Vieux-Québec, un parcours de 12,6 km effectué à 16 reprises pour un peu plus de 200 km. Dès le début de la course, soit au premier tour, un groupe d'une dizaine de cyclistes s'est détaché. Cette échappée a duré jusqu'à l'avant-dernier tour de cette course. Dans cette échappée se trouvaient deux Canadiens, dont le Montréalais Adam Roberge, qui malheureusement a vu sa journée se terminer abruptement. C'est qu'il a chuté en raison d'un nid de poule sur le chemin Saint-Louis. Il a dû quitter en ambulance. Et pour un autre Canadien, la journée s'est terminée un peu plus tôt que prévu. Il s'agit de Guillaume Boivin, qui a été sacré dans les dernières années meilleur Canadien ici même à Québec. Dans son cas, c'est plutôt une chute qui est survenue lors d'un ravitaillement. La course, eh bien, s'est décidée dans les derniers mètres au sprint où tous les gros noms étaient à peu près présents. C'est le Français Julien Alaphilippe qui a déclenché les hostilités. Malheureusement pour lui, il doit se contenter du titre de meilleur grimpeur, n'ayant pu monter sur l'une des marches du podium. L'épreuve a été remportée pour une deuxième année consécutive par l'Australien Michael Matthews, qui revenait d'une année passablement difficile. En deuxième position, le Slovaque Peter Sagan, la rockstar du circuit World Tour UCI, qui a déjà remporté l'épreuve de Québec à deux reprises, cette fois-ci se contente d'une deuxième position, et en troisième position, le malheureux Belge Greg Van Avermaet, qui en était à son sixième podium, quatre deuxième places et deux troisième places. Le champion olympique n'a jamais réussi à remporter l'épreuve de Québec en 8 présences. Le meilleur Canadien, eh bien, il s'agit de Hugo Hull de Sainte-Perpétue qui roule sous la bannière Astana. Il était visiblement heureux de sa 15e place.
Ah, content d'être là. Pour moi, ça représente quand même un beau résultat. C'est des grandes courses. On a les meilleurs au monde ici. On est à 2 semaines des championnats du monde, donc très content d'être là.
Une ombre plane toujours sur le Grand Prix cycliste de Québec. C'est que le contrat n'a toujours pas été renouvelé, comme le désire le maire Labeaume, pour les 3 prochaines années. Le maire Labeaume, cependant, se fait confiant que l'événement reviendra dans les prochaines années.
De toute façon, c'est nous autres qui mènent un peu, ce projet-là depuis 10 ans. C'est nous autres, ce sont nous les leaders. Ça m'inquiète pas. Honnêtement, j'ai pas d'inquiétude. Alors, je l'ai redit à Serge ce matin. Valérie, on s'est parlé très rapidement il y a 2 jours. Mais on va prendre le temps. J'ai pas d'inquiétude.
D'ici là, les meilleurs cyclistes au monde se donnent rendez-vous dimanche du côté de Montréal.
Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Vous le savez, j'en ai parlé à peu près tout l'hiver l'année dernière. Si vous ne m'avez pas entendu parler que j'arbitrais au hockey mineur, d'après moi, vous ne viviez pas dans la région de Québec. Mon premier invité ce soir s'appelle Pierre-Olivier Bouchard et il est le responsable des arbitres. L'arbitre en chef pour le hockey mineur dans la région Québec-Chaudière-Appalaches. Salut Pierre-Olivier.
Salut Dan.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien. Je suis content que tu te déplaces dans nos studios ce soir et qu'on puisse jaser d'arbitrage. Tu sais à quel point je suis tombé dans Potion Magique l'année dernière, puis j'aime bien ça. Puis j'aime ça apprendre en jasant avec des gars comme toi, puis en jasant avec des gars comme Guillaume et Christopher, mes deux collègues pour le match hors concours où j'étais d'office cette semaine au pavillon de la jeunesse. On a l'impression qu'on n'arbitre pas, et c'est mon premier constat, tu le sais, on s'en est parlé beaucoup hors des ondes, mais je vais le dire en ondes aux auditeurs qui écoutent ce soir, on a l'impression qu'on suit le hockey. Puis on a joué au hockey toute notre vie. Puis, ah ouais, moi, je vais au Centre Bell d'un fois, puis je regarde Weber, puis je trouve que sa sortie de zone n'est pas terrible. T'sais, on dit, ah, le hockey, je connais tout ça, les règlements, je connais tout. Mais je te dirais que pour la 60aine de matchs que j'ai fait l'année dernière, à peu près à chaque match, peut-être pas 60 fois, mais à peu près à chaque match, j'ai appris une nouvelle affaire. Un petit détail, petit détail sur le domaine de l'arbitrage. Puis ça, j'ai adoré ça.
Oui, absolument. C'est sûr que quand on commence à arbitrer, il y a plein de choses qu'on connaît pas. On pense qu'on connaît, la game, comme on dit, mais plus qu'on en fait, plus qu'on la connaît, puis les règlements, ben, ça vient un petit peu avec le bagage d'expérience. Quand on commence à arbitrer, on demande pas à nos jeunes, puis à nos plus vieux
un jeune vieux.
Ouais. On ne lui demande pas de connaître le livre des règlements complet, puis c'est tout à fait normal, puis ça vient avec le bagage. Parce que chaque match, je pense qu'un officiel apprend de certaines situations. C'est sûr que ça devient répétitif. Une obstruction, c'est une obstruction. Un accroché, c'est un accroché. Oui. Par contre, il y a des petits détails qui font en sorte que on va apprendre dans chaque partie parce qu'il est arrivé telle situation, j'étais pas bien placé, j'ai pas bien vu la rondelle. Puis là, le prochain coup, peut-être que si je suis un petit peu plus en arrière de la ligne des buts, je monte plus au filet, je vais avoir plus, je vais avoir une meilleure rangée. Puis le coach va plus comprendre c'est pourquoi que ma décision est là, parce que je suis mieux placé, puis je vais avoir moins de challenge en fin de compte là, à vendre mon appel.
Oui, tout à fait. Puis de toute façon, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense avoir compris un peu votre façon de faire. C'est que vous ne mettrez jamais trois recrues ensemble sur le même match. Puis, quelques fois dans l'année, il va y avoir des superviseurs qui vont aller arbitrer, pas pour prendre en défaut, juste pour recommander ou donner des conseils comme tu viens de le faire en onde, des petits détails qui vont nous faire réfléchir. Je vais donner un exemple pour les gens qui écoutent. Et là, tu vas rire, pas à peu près. Puis, il y a même des chances que tu ris de moi. L'année dernière, quand je m'apprêtais à déposer la rondelle dans une mise en jeu, mettons, à droite du gardien, j'avais la rondelle dans la main. Puis je disais à un joueur des Blancs, mettons, de reculer un peu parce qu'il trichait un petit peu, mais je disais ça avec la main dans laquelle j'avais la rondelle. Jusqu'au moment où un collègue m'a dit, « Dan, fais pas ça, parce que ton joueur de centre, lui, pense que tu vas déposer à pas que ça glace. Prends ton autre main pour dire aux Blancs, recule un petit peu. » Il a juste eu besoin de me le dire une fois, puis maintenant, je le fais plus.
Voilà, c'est des technicalités. Puis ça, le point que tu m'apportes, c'est que ça nous a fait penser à quelque chose cette année qui est un nouveau plan pour nos nouveaux officiels de niveau 1, niveau 2.
Okay.
Dans les deux, trois, les premières deux et troisième années, ce qu'on va faire, c'est qu'on a mis en place un programme de mentorat. Okay. Au lieu de faire de la supervision, parce qu'une supervision rendue dans des ligues régionales, provinciales, c'est plus des évaluations qu'on va faire. Son habileté de patinage, est-ce qu'il a fait des bons appels, est-ce que ses signaux étaient clairs, sa communication avec les joueurs était comment. Ça, c'est pour moi, c'est plus une évaluation qu'on va faire. Tandis que cette année, on va faire des plans de mentorat que les arbitres vont embarquer sur la glace des vétérans, qu'on va appeler des mentors dans ce cas-ci,
ouais.
Vont embarquer avec des arbitres de niveau 1, niveau 2, première, deuxième et troisième année, puis ils vont leur montrer des choses sur le spot, comme on pourrait dire.
Okay.
Pour être sûr que...
Pas sur Internet, pas dans des livres, non, pas dans une salle de classe, non, sur la patinoire.
Sans glace, avec eux autres. Okay. Donc, le feedback que tu as eu, Dan, exemple que tu le fais la première minute du match, au lieu de te le dire à la fin de la partie dans la chambre après la game, je vais te le dire sur le spot. Là.
Okay.
On va le savoir exactement tout de suite. Dan, la rondelle, il faut que tu la caches parce que le joueur de centre, lui, il peut peut-être te donner un coup de bâton ses mains.
Oui.
J'ai déjà vu des arbitres se faire casser le nez parce qu'ils se sont penchés la tête trop vite. Le joueur de centre, il pense qu'il effectue la mise en jeu.
Okay.
Donc, c'est tous des petits points comme ça que je pense qu'on va devenir plus... comment je pourrais dire ça? Autodidacte, ils vont le faire en même temps. Au lieu que d'arriver puis de donner un feedback, puis là d'arriver avec une liste d'épicerie puis de dire faut que tu corriges ça, faut que tu corriges ça, faut que tu corriges ça. Quand tu es sur la glace avec eux autres, place tes patins comme ça. T'sais, c'est aussi il y a plusieurs arbitres qui n'ont jamais compris ça. Quand tu es juge de ligne, si tu restes les patins dans le même sens que la ligne, si la rondelle arrive à un dégagement, votre poignet patin ne passe pas.
Et voilà.
Si tu es parallèle, c'est comme un arbre au golf. Dan, moi, c'est rare que je vais là dans les arbres au golf. Quand on a joué au golf ensemble, je ne vais jamais là, moi.
Ouais.
Mais ce que je veux te dire, c'est que des petites technicalités comme ça, on vous le dit une fois, puis ça rentre à
exact.
Fait que quand on est sur la glace, c'est beaucoup plus facile.
Qu'est-ce que vous avez d'autre comme initiative, PO?
On a deux nouvelles initiatives aussi. La première consiste en des bourses d'études. On va offrir des bourses d'études universitaires, une bourse de 500 $ pour un étudiant universitaire. On va offrir deux bourses de 250 $ pour des étudiants qui sont au cégep.
Okay.
Et on va offrir une bourse de 150 $ pour un étudiant du secondaire qui passe au cégep. Et ces bourses-là sont offertes par la région de hockey Québec-Chaudière-Appalaches pour nous aider à mousser un petit peu le recrutement à ce niveau-là. Puis ça donne un petit coup de pouce.
Ouais. Peut-être
me dire que c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien.
Ça va être attribué... Parmi ceux qui vont...
Absolument. Il va y avoir des critères là, préétablis. Okay. On en a. On est à la planche à dessin d'avoir des critères, mais ce n'est pas un tirage au sort. Il va y avoir des critères qui vont être préétablis.
Ouais.
Puis on va faire un petit peu comme ce que les ligues font, mettons, dans le midget 3 junior majeur, les joueurs étudiants.
Okay.
Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des arbitres étudiants avec ça.
Vous allez enlever mon nom, puis vous allez faire un tirage parmi les autres. OK,
ben,
j'ai
si
compris.
Si tu décides de retourner à l'université, Dan, j'ai pas de problème
non,
avec
pas
ça.
Dans mes plans.
C'est correct.
OK.
L'autre chose qu'on a, c'est qu'on a on va offrir un kit de départ à tous nos nouveaux officiels.
Okay.
OK, niveau 1, on va leur offrir un kit de départ d'une valeur de 128 $. C'est casque, visière, chandail, sifflet. On commence à arbitrer, on donne gratuitement un kit. Parce que ça, c'est ce qu'on entend. Ouais, mais là, moi, ça va me coûter combien m'inscrire, puis m'as-tu rentré mon argent? Ce qu'on fait maintenant, on vous le donne.
La région donne ça
aux
nouveaux arbitres.
Les nouveaux officiels de première année, ils ont ça. Et wow. On a une option, on a deux options. On a okay. soit le kit de départ, et si oui. moi, il y a des gens comme toi, Dan, que je le sais, que tu t'es équipé de la tête aux pieds, puis tu t'es très bien équipé, OK? Ouais. T'es quasiment mieux équipé que moi, fait que c'est correct. Ces gens-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un kit complet aussi qui est offert à 275 $, okay. mais là, c'est vraiment la totalité. Il y a même les pantalons, les pads, les coudes. Hey, là, on émite, là, ça, on l'habille de la tête aux pieds.
Ça,
là.
C'est pour des gars qui n'ont pas changé le stock depuis 12 ans, mettons.
Ouais, exemple, oui. Okay, puis ça, okay. ils n'ont pas besoin d'être nouveaux, ils peuvent y aller directement.
Pis, en terminant pour le recrutement, tantôt, tu disais qu'il manquait à peu près 200 arbitres. Tu seras à l'aise d'en recruter combien d'autres encore? Faut-tu que t'en aies 600 actuellement pour commencer?
Tu sais, comme je dis, puis j'ai toujours dit, on va faire avec ce qu'on a dans la majorité du temps, mais idéalement, moi, j'aimerais au moins être au même stade que l'an dernier.
OK, 740.
Si je serais capable, 750. 750. Si je serais capable de me rendre à 800, je serais un homme okay. tout à fait heureux okay, là, là-dedans.
OK. Mais là, pour l'instant, il en manque. Puis il faut juste leur rappeler que c'est le fun d'arbitrer.
Puis tes chums, s'ils veulent venir, Dan, faut rappelle-le qu'il n'y a pas de problème, on va y prendre.
Ouais, mais tu sais, moi, mes chums, faut faire attention. Là. Ça veut pas
ils
dire.
Ils savent pas patiner. Ou...
non, mais ça veut pas dire que parce qu'ils sont fans des Pingouins de Pittsburgh ou du Canadien, ils pensent qu'ils peuvent arbitrer. Là.
Non, c'est sûr. Il faut avoir des aptitudes, mais on aimerait bien ça
de
n'avoir.
Ouais, puis des gars de Ligue de Garage qui ont joué. Là, on parlait de mes chums à la blague, évidemment, mais des gens qui sont à l'écoute de l'émission ce soir, qui viennent des quatre coins de la région. Il n'y a pas juste. Tu sais, on a perdu l'aréna de Sillery. L'aréna de Sainte-Foy est en rénovation. Je comprends que ça va réaménager l'horaire, mais ça prend des arbitres à Beaupré, ça en prend Saint-Raymond. Puis ça en prend à Beauport, puis ça en prend à Saint-Nicolas, puis à Saint-Étienne, ça en prend partout, là.
Absolument. Puis au lieu d'aller faire une game ou deux, mais pourquoi tu vas pas arbitrer une game ou deux?
Exact.
Puis ça va te faire patiner. C'est sûr que c'est pas jouer la game, mais au moins tu vas
faire
être
patiner,
à la glace.
Tu dis, moi je patine plus depuis que j'arbitre que quand je joue au hockey.
C'est bon, ça.
OK, moi, j'ai été recru à 48 ans dans le domaine de l'arbitrage au hockey mineur. C'est pas l'idéal. J'aurais aimé ça le faire avant, en toute honnêteté, mais c'est pas grave. Je suis bien content. Là, dans le recrutement, dis-moi, est-ce que tu vises des jeunes de 15 à 22 ans? Ou... Là, on est en période de recrutement.
Là. Absolument. Là, on est en grosse période de recrutement. On est en léger retard par rapport à l'an dernier. Là,
OK.
En date de ce soir-là, on a 510 inscriptions par rapport à 749 l'an dernier.
Okay.
Donc, plus ou moins 240 inscriptions.
Mais quand même, c'est un bon pourcentage qui manque. Là.
Qui manque. Pis,
pourquoi, selon toi, Pierre-Olivier?
Je pense qu'il y a un manque d'intérêt un petit peu, puis il y a un manque de valorisation envers le travail de l'officiel.
Okay.
Tu sais, je me ferai pas de cachette, une personne comme toi qui commence à arbitrer nous aide beaucoup. Parce que tu en parles, puis tu en parles en bien.
Ouais.
Souvent, ce qu'on entend parler, là, c'est juste « Ah, l'arbitre s'est fait crier après. Ah, mon jeune, c'est... Je sais pas, moi, je veux jamais qu'il soit ici à la glace parce qu'il est arrivé telle situation. » Tandis que, dans 80% du temps, il n'y a pas de problème quand on arbitre. Mais je pense qu'il faut vendre la profession. C'est un hobby, première des choses.
À la base, on ne fait pas ça pour faire de l'argent.
Non, on ne fait pas ça pour faire de l'argent. La personne qui vient me voir, qui me dit, moi, je veux me mettre riche avec ça, désolé, va faire d'autres choses, t'es pas à bonne place.
Okay.
Moi, ce que je vise, c'est intéressant, c'est sûr que moi, je veux avoir des jeunes de 15 à 22 ans.
Okay.
Ça, c'est sûr, parce qu'on veut avoir des arbitres sur le provincial qui vont dans des ligues supérieures, puis ils aiment ça les avoir aux alentours de 20 ans. Mais des Dan Poux, j'en ai besoin. Parce que des Dan Poux qui ont joué au hockey pendant 30 ans, qui ont une expérience, qui ont la maturité puis qui ont l'âge, à leur première, deuxième année, ça se peut qu'ils fassent du junior A, du junior B. Mon petit gars de 17 ans, il peut être super bon, mais si je le mets à la glace dans un junior A, il va peut-être arriver puis il n'y aura pas la crédibilité que Dan Poux va avoir, même si Dan Poux, c'est sa première année. Là.
Ça, c'est super important ce que tu dis, parce qu'il y a des gars qui jouent dans les ligues de garage comme moi depuis bien des années, qui disent « Ouais, je vais aller arbitrer. Oublie ça, Dan, ils vont m'envoyer faire du novice demi-glace, puis au bout de deux mois, je vais tout lâcher ça, je vais être à bout. » C'est pas vrai, parce que je suis le plus bel exemple de l'année dernière, puis c'est pas des fleurs parce que vous avez dit « Ah ouais, il fait de la radio, on va lui donner des bonnes games, pantoute. » J'ai fait, puis il y a des games qui étaient de moins bon calibre, puis j'allais les faire parce que j'arbitre pour les bonnes raisons. Mais l'année dernière, je me suis retrouvé à faire, je pense, une fois sur les lignes, mettons, une game Midget B ou Junior B, Midget 2B ou Junior B, je me souviens pas du calibre exact, mais je me disais, ah ouais, dès ma première année, je peux faire un calibre aussi élevé.
Absolument, parce que moi, là, en fin de compte, les niveaux, puis ça, souvent, on dit, ouais, mais là, je suis niveau 1, je suis niveau 2. Ben non, mais moi, je m'en fous un peu du niveau.
Okay.
Ce qui m'importe, moi, c'est la personne. Nous, on juge des personnes, je ne juge pas des niveaux. Parce que j'ai des niveaux 1 qui sont meilleurs que des niveaux 3. Tu sais, puis j'ai des niveaux 2 qui sont moins bons que des niveaux 1 aussi.
Comprends.
Moi, ce que je veux, c'est des individus qui sont apte à faire les parties, peu importe le niveau.
Okay.
Puis l'autre chose, c'est les gens pensent que moi, si je commence à arbitrer, là, moi, j'ai pas le temps d'arbitrer 15e. Enfin, personne. À titre d'exemple, Dan, j'ai pas le chiffre en tête. L'an passé, tu as fait combien de matchs total dans ton année, là, à partir du 1er septembre jusqu'au 15 avril?
Mais moi, c'est drôle parce que j'ai pas commencé le 1er septembre l'année dernière. J'ai commencé parce que, justement, il y avait une pénurie d'arbitres l'année dernière.
C'est bon, ça.
Ils ont ajouté une séance de formation au mois de novembre. Donc, j'ai commencé au début décembre. Puis jusqu'à la mi-avril, j'ai fait une soixantaine de matchs.
Soixantaine de matchs, ça t'a pas coûté ta conjointe? Non. Ça t'a pas pris tout ton temps?
C'est ça.
Puis tu mettais tes disponibilités, puis quand tu étais disponible, tu allais. Puis si tu n'étais pas disponible, ben c'était pas plus grave que ça, tu n'arbitrais pas.
Il n'y a pas un assignateur qui m'a dit « Ah là, tu n'es jamais disponible! »
On va te mettre dehors.
Non, c'est ça.
Ben, c'est un petit peu ça. Okay. Puis moi, le point où ce qu'on veut arriver, puis ce qu'on veut apporter, c'est d'aller chercher plein d'arbitres de plein de strates d'âge, en fin de compte. Oui. Puis moi, j'ai un exemple en tête. J'ai un arbitre, Danny, il a 58 ans. Puis lui, il me dit « Moi, au lieu d'aller au gym, j'arbitre. » Puis il dit « P.O., je te dis quelque chose. » Il dit « C'est toujours la meilleure place pour voir une game de hockey. C'est sa glace avec les petits gars. »
Il a raison.
Puis lui, là, il fait 10 ans qu'il arbitre à Québec.
Il aime le hockey pour le vrai.
Il aime le hockey pour le vrai. Puis il est là. Puis lui, là, ça y change rien.
OK. Là, vous êtes en période de recrutement. La façon de s'inscrire, c'est d'aller sur le site officiel avec un S, officiel HQCA pour Hockey Québec Chaudière-Appalaches.com.
Absolument.
Donc, je le répète pour les gens à l'écoute. Officiel avec un S, HQCA.com. Vous allez là, les stages, c'est très facile à trouver.
Absolument. Les stages, c'est en haut de l'onglet. Vous allez voir stage 2019. Vous allez voir stage niveau 1-2 pour ceux qui commencent.
Parfait.
Puis vous allez voir stage de recertification. C'est ceux qui, ça fait plus de 2 ans qui arbitrent.
Okay.
Ils s'inscrivent là-dessus. Ils vont la procédure, en fin de compte, à quoi faire, c'est on choisit notre date de stage. On envoie un courriel à recrutement à commercial officiel avec un S, HQCA.com.
OK.
Vous allez recevoir un lien, vous remplissez vos informations et il y a quelqu'un qui va vous prendre en charge, qui va communiquer avec vous, qui va vous inscrire dans le stage, qui va tout vous, excuse-moi l'anglicisme, vous setuper pour être prêt à débuter à arbitrer dans un court délai, là, en fin de compte.
OK. Dernier point sur lequel je veux m'arrêter avec toi. L'année dernière, j'ai arbitré, puis quand je jase avec des gens qui disent « Ah, ouais. » Au début, les gens disaient « Ouais, tu veux vraiment te faire crier après? » Puis là, après ça, quand je leur dis « Non, ça crie pas tant que ça », ils disent « Hein, comment ça? Ah, on sait bien, toi, ils te connaissent, ils crient pas. » Non, c'est pas vrai. Le problème du hockey mineur, c'est pas vrai que c'est tous les joueurs, puis tous les coachs, puis tous les parents qui font juste crier après les arbitres.
Absolument.
On entend des cas uniques quand il en arrive, mais sur 1200 matchs dans une semaine, vous allez entendre 2 histoires, mais tous les autres matchs, ça s'est bien passé.
Voilà.
Ça, faut le souligner.
Voilà.
L'autre chose, c'est que pour les jeunes qui sont à l'écoute de l'émission ce soir, ou les parents qui sont à l'écoute qui ont des jeunes de 14, 15, 16 ans, qui disent « Ouais, mon jeune, s'il va arbitrer, lui, il ne crie pas après Dan, les coachs, mais peut-être qu'ils vont crier après notre jeune. » Là, vous avez une nouvelle initiative pour
Absolument.
Ces jeunes-là.
Cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un plan que tous les jeunes de 18 ans et moins vont avoir un brassard jaune sur le bras gauche.
Oui.
Okay? C'est les gens, le partenariat avec l'entrepôt du hockey là, qui nous ont aidés un petit peu avec ça. C'est qu'on va lui mettre un brassard jaune et on va faire un petit peu de la promotion à travers les arénas de la région de Québec puis leur dire, écoutez, là, si vous criez après un jeune qui a un brassard jaune, là, c'est comme si vous criez après un enfant. Est-ce que c'est tolérable que quand je vais voir une partie bam-tam, que si je suis dans les estrades, que je crie après un jeune sur la glace parce qu'il a manqué la passe, tout le monde va nous regarder, va dire, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Mais c'est acceptable pour le même jeune qu'un gilet arbitre de se faire crier après parce qu'il manquait une pénalité. Ça, pour nous, c'était primordial de faire passer le message que quand les jeunes sont 18 ans et moins, ils sont en apprentissage.
Okay.
Si je veux les garder pour qu'à l'âge, à Dan, ils arbitrent encore, il faut que vous me donnez un petit coup de pouce parce que la rétention d'arbitre et la valorisation, c'est ça.
Absolument.
Tu sais, on en parle souvent. Là. C'est pas parce que McDonald's ou Tim Hortons ou peu importe, on a besoin d'employés. Tout le monde a besoin d'employés.
Oui.
Je pense que la place où ce qu'on va faire un gain par rapport à d'autres secteurs, c'est d'arriver avec un encadrement puis une valorisation puis un meilleur contrôle au niveau de nos arénas.
Très bon.
Pour réussir à les garder avec nous autres.
Puis quand tu dis, juste terminer avec ça, quand tu dis le jeune à 17 ans, s'il commence, on espère qu'à l'âge d'Adam, il arbitre encore. On espère à tout le moins qu'il fasse une coupe d'années.
Voilà.
C'est totalement anormal. Il n'est pas obligé d'arbitrer 30 ans dans la région de Québec, là. Mais c'est totalement anormal qu'un jeune qui commence à arbitrer au hockey mineur, au bout d'un mois et demi, il arrive chez eux, il dit à ses parents,
fini.
J'ai garoché ma poche d'arbitre dans le cabanon, puis je ne la ressors pas. Comment ça? Alors, il y a un coach qui m'a crié après, ou il y a un parent qui m'a attendu après la game, je ne vois plus. Ça, c'est anormal.
Ça, c'est anormal. Puis, des fois, j'ai des discussions avec des parents. Moi, je me souviens, j'ai commencé à arbitrer à 14 ans, puis j'étais peut-être, je vais dire dans le jargon, j'étais prime un peu avec le caractère.
Okay.
Puis l'arbitrage m'a permis d'avoir plein de choses. De contrôler mes émotions, d'accepter la critique, puis après ça, d'être ponctuel, puis de garder une structure, puis d'être capable de gérer des gens. Tu sais, on arrive, là, il y a 17 joueurs d'un bord, oui. 17 joueurs de l'autre, deux entraîneurs à trois entraîneurs à chaque bord. C'est ça qu'on demande d'arriver à gérer. Puis, il y en a plusieurs, puis c'est drôle, voilà une couple de mois, j'entendais Myriam Segal dire, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, en entrevue, engage toujours des gens qui ont arbitré un sport. Justement à cause de ça. Ils sont, sont capables de faire face à la critique. Ouais. Ils sont capables de prendre des décisions en cas de stress. Ouais. Tu sais, l'adrénaline monte là, quand tu arrives en finale de tournoi puis que c'est 2-2 en oui. prolongation. Oui. Au tournoi, puis oui, puis il y a 17 000 personnes. Aïe,
ouais.
aïe, là. Aïe, ouais. il faut que tu apprennes ouais. la décision. Ouais. Là. Ça boit ouais. du pis oui, il faut que tu apprennes. Fait que ça, pour moi, des parents qui me disent non, moi, mon jeune, poussez-le à se dépasser, puis vous allez voir. Ça va être bénéfique pour lui au long terme.
Absolument. Ça peut nous servir, comme tu viens de l'expliquer, dans la vie de tous les jours aussi, absolument. Pas simplement dans l'arbitrage. Un gros merci d'être passé, Pierre-Olivier.
Merci, Dan.
À bientôt. Pierre-Olivier Bouchard est arbitre en chef pour la région Québec-Chaudière-Appalaches. On est en période de recrutement actuellement. Vous allez sur le site très bien fait, très, très facile à opérer. Officiel avec un S, HQCA.com.
Au FM 93. Allez, l'avant-match.
De retour après la pause.
Pour commenter les facettes. Are you ready for some football? Dans l'avant-match, le football de la NFL avec William Boivin.
FM 93, ça me parle.
Mr. Will, comment ça va?
Hey, ça va bien, Dan. Écoute, à l'aube d'un gros week-end de football, on est content, j'ai hâte.
Ouais, toi, tu tripes football à longueur d'année, puis je dirais même à longueur de semaine. T'attends pas qu'il y ait des matchs pour triper football. Mais hier, juste... Ah non, Colin, là, Will, là, tu sais comment ça va virer, hein? Là, je voulais te parler de la game d'hier, parce que Cam Newton, à chaque fois que je le regarde jouer à la télé, il me déçoit. Puis là, c'est le rouge et or, puis on va revenir à peu près sur la NFL. Fait que là, on va y aller de façon structurée, ce qui est très rare dans mon émission. On va commencer avec le rouge et or. Le rouge et or, hier, tu étais présent au point de presse hebdomadaire de Glenn Constantin qui prépare le match entre les deux meilleures équipes au Québec. Ça se passe demain, 14h, sur TVA Sports, au CEPSUM de l'Université de Montréal. Première question que j'ai pour toi. Est-ce que, parce qu'on sait que dans les dernières années, ça a été plus tough pour le rouge et or de battre les Carabins à Montréal particulièrement, mais ils l'ont déjà fait. Est-ce que pour Samuel Chénard, tu as joué au football toute ta vie, tu collabores encore avec des équipes de football, des jeunes de la région de Québec, tu subis ça. Samuel Chénard, on dit, Will, corps recru de cinquième année, est-ce que pour lui, demain, c'est un stress supplémentaire?
Oui, c'est sûr, Dan. C'est sûr. Et même si dans le passé, probablement avec le séminaire Saint-François au niveau secondaire, avec le campus Notre-Dame-de-Foy au niveau collégial, ça c'est les équipes pour laquelle a évolué Samuel Chénard, ben probablement qu'il a déjà joué au CEPSUM contre les Spartiates au niveau collégial, contre peut-être les Cactus de Notre-Dame ou de Jean-Eudes au niveau secondaire. Donc probablement qu'il a déjà vécu l'expérience du CEPSUM, mais il n'a pas affronté les Carabins. Il n'a pas vécu également la frénésie d'un match entre le Rouge et Or et les Carabins. Il l'a vécu sur les lignes de côté, mais il ne l'a pas vécu sur le terrain. Puis, Dan, même s'il n'y a pas 16 000 personnes au CEPSA, même s'il y a toujours, il y a moins de monde, bien sûr, parce que le stade n'est pas aussi gros que le stade TELUS ici à Québec, mais il y a beaucoup d'ambiance. Puis, les estrades sont très près des lignes de côté. On entend les partisans de très près. On entend ce qu'ils disent et tout ça. Alors, c'est pas facile quand même, surtout pour un carrière, de gérer ton offensive, de probablement y aller avec un appel de jeu silencieux. Alors, on va y aller avec des signaux au lieu d'appeler le jeu vraiment avec des mots et la voix. Okay. Parce que ça crie beaucoup là-bas, justement, au CEPSUM. Et pour qu'on comprenne bien le jeu et que tout le monde sache ce qu'il y a à faire, bien souvent, on y va avec un appel de jeu silencieux. Alors, ça, Dan, ça prend carrière qui maîtrise complètement le cahier de jeu. J'ai confiance en lui. J'ai bien sûr confiance en Justin Fier, qui en a vu d'autres et qui connaît l'environnement du CEPSUM. Mais particulièrement en début de match, Dan, il devra s'affirmer avec son offensive et surtout, je pense qu'il faut y aller basic. Du côté de Samuel Chénard et du côté des appels de jeu, on a bien couru le ballon depuis le début de la saison du côté des Rouges et Or. On a des bons porteurs de ballon, 2-3 différents qu'on peut remplacer et qu'on peut amener pour surprendre la défensive, mais on devra faire un appel de jeu basic, j'ai l'impression, en début de match. Et surtout, on devra faire un appel de jeu silencieux pour un petit peu calmer la foule.
Okay.
Et également, si on est la première équipe à s'inscrire au pointage, je pense qu'on se donnerait une bonne marge de manœuvre pour remporter le match, Dan.
Parfait. Tu as fait référence aux 16 000 spectateurs du stade TELUS. Will, ce qu'il faut que les gens qui sont à l'écoute de l'émission ce soir comprennent, pour être déjà allés au Sepsum, pas sur le terrain, mais dans les estrades, il n'y a pas beaucoup de monde, mais les gens sont très près du terrain. Il n'y a pas de piste d'athlétisme entre le terrain et les estrades, là.
Exact, exact. Ils sont très près du terrain et pour ceux qui, ben, on l'a vu des fois à la télévision, à TVA Sport, ou pour ceux qui ont déjà été sur place, il y a une espèce de petit toit par-dessus la tête des gens au Sepsum, mais on dirait que le bruit colle sur le toit pour revenir sur le terrain.
C'est vrai.
C'est que le bruit reste vraiment à l'intérieur du stade, si on veut. Donc, Dan, même s'il y a pas mal moins de monde qu'au stade TELUS, il y a même autant de monde des fois qu'à Sherbrooke. Pas un match entre les Carabins et le Rouge et Or, mais des fois, il y a autant de monde à Sherbrooke pour un match entre les Carabins et Concordia. Là. Tu comprends un petit peu, mais c'est très bruyant, par contre.
Quand tu as parlé à Glenn Constantin hier au Point de presse hebdomadaire, c'est impensable pour moi qu'ils disent que c'est un match comme les autres. Là.
Ben non, puis tu sais, même si il nous dit, Dan, on le regarde avec un petit sourire en coin, puis c'est sûr que la préparation n'est pas la même durant la semaine. Quand tu affrontes Concordia, quand tu affrontes les Carabins. C'est sûr, c'est une bataille à finir entre les deux programmes, les deux monstres du circuit universitaire québécois. Et non seulement, Dan, c'est une bataille sur le terrain, oui, mais c'est une bataille également au niveau du recrutement. Dans les dernières années, tous les meilleurs joueurs au niveau collégial au Québec, tous ces joueurs-là décident de jouer, d'aller jouer, c'est soit à Laval ou soit à Montréal avec les Carabins. Il n'y a aucune autre option. Alors, la victoire est importante, bien sûr, pour gagner la Coupe d'Antimoire et participer à la Coupe Vanier, mais également au niveau du recrutement. Alors, j'ai l'impression, Dan, même demain à 14h sur le terrain à Montréal, j'ai l'impression que c'est les meilleurs joueurs des écoles secondaires et collégiales un peu partout au Québec. C'est les joueurs étoiles qu'on a vus sur les terrains secondaires, sur les terrains collégiales ces dernières années. Parce que tous les meilleurs joueurs d'un peu partout au Québec finissent par se ramasser, soit avec les Carabins, soit avec le Rouge et Or. Alors, c'est pas un match comme les autres, même si c'est ce que Glenn Constantin nous dit. C'est un bol d'or x10, ça a été ses mots. D'ailleurs, on écoute Glenn Constantin là, sur ce match face à ses rivaux des Carabins de Montréal le samedi au septembre.
Ben, je suis pas inquiet, moi, je leur dis que c'est le fun. Vraiment, c'est quelque chose de spécial, c'est bien, il y a l'adversité. On vit un peu ce que tout le monde vit ici au Québec. C'est important. Moi, je trouve que quand je croise les joueurs, ils me disent, là, j'ai adoré ma game à la base, je vais avoir joué chaque semaine. Donc, pour nous, c'est le fun de pouvoir aller être les vilains sur la route et de vivre une adversité. Comme je dis à mes joueurs, c'est le bol d'or fois 10, puis même plus. Mais, c'est vraiment spécial. Puis, pour nous, c'est vraiment une des réalités et un des stades qui est le plus fun au Canada à jouer.
OK, intéressant. Est-ce que toi, Will, tu t'attends à un match à bas pointage?
Oui, je m'attends à un match à bas pointage, Dan. Et surtout, on a perdu des éléments en offensive quand même du côté du Rouge et Or, mais également du côté des Carabins. Il y avait un receveur tellement dominant du côté des Carabins ces dernières années, Régis Sibassou, qui a même fait un camp des Bears de Chicago dans la NFL. Il est venu maintenant avec les Argonauts de Toronto dans la Ligue canadienne. Mais on visait vraiment beaucoup énormément ce gars-là dans les dernières années du côté des Carabins. Alors, je m'attends vraiment à un match à bas pointage, Dan, un genre de 12-8 ou un genre de 13-9. Ça pourrait très bien être le pointage final.
OK. Le temps file, évidemment, mais je veux te parler d'NFL. Puis, tu as parlé de toucher. Et là, je suis déçu d'un gars qui s'appelle Cam Newton. Il n'a pas lancé de passe de toucher à ses 4 derniers matchs. Les 2 derniers de la saison l'année dernière, puis les 2 premiers cette année. Hier, son équipe a perdu à la maison 20-14 contre les Buccaneers de Tampa Bay. Plus je le regarde jouer, plus il me déçoit. Mais il semble qu'il aurait tout pour être encore meilleur, Will.
Ben oui, tu as raison, Dan. Puis il a connu une année incroyable, Dan. Je pense que c'est en 2014 là, ou 2013, je ne vais pas me tromper sur l'année, où il a amené les Panthers en finale du Super Bowl. Il s'est incliné contre les Broncos. Il avait remporté le joueur le plus utile de la saison, le MVP. Et là, on s'est dit, wow, quel phénomène ce gars-là. Il court. Il est capable de passer le ballon aisément également. Il est gros, il est fort. Mais là, depuis 2 ans, il est affecté par quelques blessures, Dan, et ça affecte vraiment son jeu sur le terrain. Il n'a plus la force qu'il avait dans le bras. Il n'a plus la vélocité nécessaire dans ses passes également. Mais Cam Newton, là, est sur la pente descendante.
Okay.
Et sérieusement, Dan, suis même pas sûr qu'il va être encore carrière partant dans la NFL d'ici 2 ans.
Oh, OK. Les Saints affrontent les Rams. C'est évidemment le match qui suit l'erreur d'arbitrage dont on a beaucoup jasé. Est-ce que tu penses que pour les joueurs, c'est déjà oublié ou on va se remémorer ça un peu d'un côté ou de l'autre?
Ben, c'est sûr qu'on va s'en rappeler du côté des Saints, Dan. Du côté des Rams, cette semaine, bien sûr, les médias et ce qu'on jase pour ce match-là, c'est la reprise de la finale de la conférence nationale de l'année dernière, l'erreur de l'arbitre et tout ça, au lieu de se concentrer sur une nouvelle saison et le match qu'on a à jouer. Du côté des Rams, on veut oublier ça. C'est nous autres un peu qui est sorti gagnant de ça et qui a participé au Super Bowl. Du côté des Saints, on l'a encore en tête. Puis, sérieusement, c'est un peu les arbitres qui ont fait un mauvais call. C'est pas de la faute aux Rams de Los Angeles. Par contre, on voudra prendre notre revanche. J'ai démontré qu'on est la meilleure équipe de la Nationale du côté des Saints. On est passé tout près d'accéder au Super Bowl. Finalement, bon, en prolongation, les Rams ont gagné suite à l'erreur des arbitres. Mais les Saints ont gagné un bon premier match contre les Texans. Ils ont prouvé encore cette année qu'ils étaient bons offensivement et défensivement. Et là, on voudra le mettre d'en face des Rams ce week-end. Ça va être un excellent match, Dan. Ça a le potentiel d'être le meilleur match du week-end, c'est sûr. Moi, je pense que les Saints vont gagner. Et on va voir ce sentiment là, de couteau entre les dents. On va vouloir prouver qu'on est la meilleure formation de la Nationale. Drew Brees a bien fait son premier match. Alors, je m'attends à un bon spectacle, mais je vois les Saints l'emporter.
Parfait. Gros merci, Will. Bon week-end à toi.
Hey, merci à toi, Dan.
Au FM 93. Ready? Le sport commence par l'avant-match avec Dan Pou en semaine 18h. FM 93.
OK, maintenant, on va parler avec... Colin, j'allais dire une ex-athlète. J'aimerais mieux dire une jeune retraitée. Je vais dire ça comme ça. C'est Audrey Robichaud qui nous a très bien représenté sur la scène du ski acrobatique au cours des peut-être 15 dernières années. C'est elle qui va me confirmer le nombre d'années. On l'a joué au téléphone. Salut, Audrey!
Salut! Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ben oui, super!
Jeune retraitée, c'est vrai, j'ai rien inventé. 15 ans en ski acrobatique sur la scène internationale. J'étais-tu proche?
Ouais, t'es vraiment proche. Ça ressemble pas mal à ça.
Ouais, pas mal une quinzaine d'années. OK, parfait. Là,
ouais, ouais.
Là tu donnes ton nom pour aider comme tête d'affiche à la recherche sur les commotions cérébrales. On a lancé ça dans les derniers mois. Plusieurs gros noms à Québec, je dirais, se sont associés à l'événement. Simon Gagné, Michel Laplante, Charles Fortier et compagnie. Là, toi, ouais. T'arrives, toi, comme nouvelle tête d'affiche. Évidemment, il y aura un 5 à 7 lundi, mais on en reparlera plus tard dans l'entretien. Je veux que tu me parles de toi, ta carrière. Est-ce qu'automatiquement, je dois déduire, Audrey, que si t'acceptes d'être l'une des têtes d'affiche de cette recherche-là, c'est que toi-même, comme skieuse, t'as vécu des commotions?
Ben oui, en effet. Malheureusement, j'ai vécu des commotions cérébrales à travers ma carrière. Mais heureusement, ça n'a jamais été le genre de blessure qui m'a empêché d'être hors de mon sport pendant super longtemps. Donc, j'ai été quand même chanceuse à travers tout ça. Mais en fait, les commotions cérébrales, c'est un peu un sujet qui me touche depuis longtemps, bien nécessairement à cause de mon sport. Mais il y a beaucoup d'athlètes autour de moi, des coéquipiers qui ont dû arrêter à cause de cette blessure-là.
Okay.
C'est certain que ça me touche. Puis en même temps, ben maintenant, moi, je suis entraîneur, donc ça me touche d'une façon différente aussi maintenant. Donc, peu importe dans quel milieu je vais être, je trouve que les commotions cérébrales, ben c'est important d'en parler, puis ça fait partie d'un peu du sport en général, mais c'est aussi ça peut affecter aussi les gens qui ne sont pas nécessairement sportifs aussi là.
Mais non, absolument, ça peut toucher tout le monde dans la société, t'as bien raison, mais avoue que, tu sais, t'es toute jeune encore, là, tu dis j'ai fait 15 ans de ski acrobatique, mais avoue qu'on en parle beaucoup plus maintenant, puis ça veut pas dire qu'il faut arrêter, qu'il faut faire de recherche, mais avoue qu'on a progressé au moins dans les 15 dernières années.
Ben c'est incroyable, je te dirais que la différence que au niveau des commotions cérébrales, juste du fait d'en parler, là, tu sais, dans les dernières 15-20 années, là, ça a beaucoup évolué, tu sais. Nécessairement, tu sais, les commotions cérébrales, c'est un peu une blessure, des fois, qui est invisible, tu sais. Fait qu'on sait pas nécessairement que, tu sais, quand on a vécu une commotion cérébrale, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, tu sais. C'est vraiment des. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, puis avec le projet sportif qui vont un peu faire des recherches là-dessus, ben, ouais. Ça va nous aider un peu plus à comprendre, puis un peu les mettre le doigt sur ce qui se passe un peu dans ces moments-là, tu sais. Fait que ça fait en sorte que les gens vont être un peu plus informés, puis ils vont savoir qu'est-ce qui se passe, puis. En général, les gens vont être un peu plus informés, là.
idéalement, dans la vie, dans le monde du sport, dans la vie générale, mais particulièrement dans le sport, parce que c'est le domaine qui nous préoccupe, toi et moi, ben on aimerait ça qu'il n'y en ait plus de commotion cérébrale. Mais on sait très bien que ça n'arrivera pas. L'important, c'est peut-être d'en prévenir plusieurs.
Ben, prévenir, oui, mais aussi quand tu as vécu la commotion cérébrale, c'est un peu le suivi aussi, tu sais.
Oui.
Il y a beaucoup d'étapes à suivre après qui font en sorte que le retour au jeu va se faire sécuritairement, tu sais. Fait que c'est un peu, tu sais, oui, ça va arriver, mais quand ça va arriver, je pense que l'athlète ou la personne à qui c'est arrivé va être un peu plus encadrée, puis elle va un peu plus savoir qu'est-ce qui s'en vient, là.
Absolument. OK, tantôt, tu disais, je disais de toi que tu étais une jeune retraitée. Tu dis que tu coaches les jeunes. C'est quoi la nouvelle vie d'Audrey Robichaud maintenant?
La nouvelle vie, étudiante et entraîneur à temps partiel.
OK, c'est ouais. Bon.
Oui, c'est ça. Puis j'essaie de m'impliquer justement dans le projet sportif. C'est ça ma vie, c'est temps-ci.
OK. Étudiante en quoi? Où? Rendue où? Puis dans quelle mesure tu as étudié dans les dernières années en compétitionnant?
Ben là, en ce moment, je viens de rentrer à ma deuxième année au bac en intervention sportive à l'Université Laval.
OK.
Dans les dernières années, je te dirais que j'ai mis mon éducation sur la glace un petit peu, surtout pendant les Jeux olympiques.
OK.
Nécessairement, le sport et les études en même temps, à ce niveau-là, c'est un peu plus difficile.
Oui.
Donc, j'avais fait un petit peu des cours au cégep durant ma carrière, surtout au début. Puis au niveau, quand je suis arrivée un peu plus aux Olympiques, ben je voulais prendre, mettons, une année juste pour me concentrer sur mon sport. Fait que j'avais mis ça sur la glace. Donc, après ma retraite, ben moi, c'était mon plan. Là, je voulais absolument aller à l'école. Je voulais aller chercher des formations, puis un peu m'éduquer. Donc, je voulais absolument rentrer à l'école après ma retraite. Puis, mais tu sais, j'ai jamais vraiment arrêté de faire d'école parce que pour moi, c'était super important de continuer un peu à travers tout ça. Là.
OK, parfait. Dis-moi, est-ce que à cette période-ci de l'année, on est à la mi-septembre, tu serais déjà en camp d'entraînement avec l'équipe nationale. Est-ce que tu as des papillons? Est-ce qu'il y a des journées où tu te lèves et tu te dis « Caroline, que j'aimerais ça revenir en arrière pour partir faire le tour du monde?
» Ben, tu sais, c'est certain qu'il y a des choses qui me manquent, mais il y a beaucoup de choses qui ne me manquent pas. Mais je te dirais que je ne regarde pas vraiment en arrière, non. J'étais vraiment prête à prendre ma retraite. Parce que pour moi, ça a été un peu... Ça a été facile de prendre la décision. Là. Ça faisait déjà, comme tu disais, là, quasiment 15 ans que je faisais ça. Là. Fait que moi, quand j'ai pris ma retraite, ben j'étais comme prête. J'étais rendue là dans ma vie. Fait que je regarde en arrière un peu pour me remémorer les souvenirs et tout ça. Puis c'est bien correct aussi, mais en même temps, je regarde un peu ce que les jeunes y font en ce moment en entraînement, puis je me dis que peut-être que j'ai pris ma retraite au bon moment.
OK. OK. Ça, c'est le réflexe de la vieille qui dit « je serais peut-être plus capable de les suivre ».
Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est certain que si je m'étais entraînée tout ça, peut-être
ben oui,
que là,
ben
maintenant,
oui, ben
c'est
oui,
ma
ben
vie
oui.
tellement changée ben que oui. je me vois plus.
OK. Lundi, à la cage de Le Bourgneuf, tu vas être présente comme tête d'affiche. Le docteur Dupré, le chercheur Dupré également, neurologue, va être là pour donner une conférence sur ces fameuses commotions, pour jaser un peu de son projet. C'est une recherche qui va durer plusieurs mois. Est-ce que tu peux donner les détails au public qui écoute mon émission ce soir, qui voudrait se joindre à nous? Parce que, je dis à nous, toi, tu vas être là en avant sur le stage, mais moi aussi, je vais être là pour vous écouter, là, toi et le chercheur.
Ben parfait. Ben en fait, ça se passe à la cage de Le Bourgneuf.
Ouais.
C'est au coût de 30$, puis c'est comme d'un 5 à 7 cocktail mini-conférence.
OK.
En fait, ce qui va se passer, c'est que le docteur Dupré, qui est en fait neurologue, lui, il va parler un peu de la recherche en tant que telle. Tous les détails que moi, je connais pas nécessairement parce que clairement, je suis pas docteur, mais lui, il va parler un peu de la recherche puis un peu qu'est-ce que ça implique. Puis en fait... Moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer, c'est que si vous avez des questions, vous avez des inquiétudes, vous avez déjà vécu une commotion cérébrale ou quelqu'un dans votre entourage a connu une commotion cérébrale, puis il y a peut-être des inquiétudes, peut-être que c'est le moment de pouvoir en parler avec le docteur Dupré, en fait, parce que c'est lui spécialiste pour les commotions cérébrales. Moi, j'en ai vécu, mais nécessairement, moi, je suis pas la chercheuse, mais le docteur Dupré va être capable de répondre aux questions de tout le monde.
OK. 30$ lundi à la cage Le Bourgneuf. On invite la population à se joindre à nous pour un 5 à 7 conférence. On va dire ça comme ça.
Oui, puis en fait, tous les fonds ramassés durant cette soirée-là vont aller directement pour la recherche sur les commotions cérébrales.
Parfait. Un gros merci, Audrey, de nous avoir parlé ce soir. C'est très apprécié.
Merci beaucoup à toi.
À bientôt. Audrey Robichaud, jeune athlète retraitée du ski acrobatique, elle sera là. Cocktail, conférence, lundi à la cage de Le Bourgneuf. Ça débute à 17h, les gens intéressés. Ben, c'est facile pour vous de vous procurer des billets ou de venir simplement à la porte pour assister à l'événement. Voilà, c'est tout pour l'émission de ce soir. Je vous rappelle que le pool d'hockey que j'organise, ben, il reste encore de la place, quelques places. Ça vous tente de jaser de ça avec les voisins ou avec les beaux-frères en fin de semaine. 418-650-1234, vous appelez au Saint-Hubert pour réserver votre place. Ce sera lundi le 30 septembre prochain. En attendant le hockey du Canadien et celui des Remparts, ben, il y a deux matchs d'hockey Midget 3 ce soir, 19h à Saint-Augustin. Le Blizzard qui joue un match local et... à Lévis également, pardon, à Lévis, c'est le collège Charlemagne qui visite les Chevaliers. C'est Rivière-du-Loup qui visite le Blizzard à Saint-Augustin. Et à Lévis, les Chevaliers sont en action, dirigés maintenant par l'ancien de la LNH, Éric Bélanger. Le match est à 19h à Saint-Augustin et à 19h30 à Lévis. Si jamais le hockey Midget 3 vous intéresse, moi, ça m'intéresse grandement depuis plusieurs années. Je trouve que c'est un excellent calibre de hockey qui mérite d'être découvert ou à tout le moins reconnu. Voilà, c'est tout pour l'émission de ce soir. Passez donc une belle fin de semaine.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur FR.